Lampedusa, c'est un peu particulier. C'est pas seulement que petite, c'est vraiment isolé.
Lampedusa, ainsi soit l'île.
Je pense que les migrants ne voient même pas l'île de Lampedusa. Ils ne savent pas comment elle est faite. Et puis, ça ne les intéresse pas, tellement ils sont épuisés. Lampedusa est un rocher qu'ils trouvent devant eux, sur lequel ils s'agrippent. C'est comme un pilier contre lequel s'appuyer pour reprendre des forces. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas la possibilité de se déplacer sur l'île. Il y a eu quand même quelques jeunes gens qui sont revenus pour voir et pour comprendre où ils avaient été sauvés.
Est-ce que c'est encore l'Europe? N'est-ce pas déjà une île africaine? Mais une terre de confins est-elle destinée par nature au confinement des fantômes? Fantômes? Il se trouve que Martin Curtius, un humaniste allemand qui s'intéressait à la périphérie du monde turc, écrivait ceci sur l'île au XVIe siècle. On y voit des masures et des ruines, mais on y peut demeurer à cause d'une certaine fatalité. Fatalité, Curtius ajoutait, apparaissent en effet dans cette île, la nuit, des spectres effroyables. Ce texte d'il y a 5 siècles apparaît prémonitoire depuis que les pêcheurs de Lampedusa sont devenus pêcheurs d'hommes, ramenant dans leur filet, dès le début des années 1990, des cadavres de naufragés. Et ce mot « fatalité », revenons-y, est-il juste? Il l'est sans doute quand il s'applique aux migrants venus d'Afrique. Eux n'ont le choix qu'entre une vie impossible, en Libye particulièrement, et une mort probable, en mer. En revanche, autour d'eux se construisent des stratégies parfaitement rationnelles. Celles des passeurs, qui n'hésitent pas à leur faire emprunter des itinéraires de plus en plus difficiles dans des embarcations de plus en plus improbables. Celles des autorités italiennes, qui ont organisé souvent autour d'eux des effets de cliquet. À certains moments, après les avoir interpellés en mer, elles les ont dirigés systématiquement vers l'île plutôt qu'ailleurs, au point d'engorger le ou les centres de rétention. À d'autres, elles ont fait le vide, afin de montrer à l'opinion une île vitrine, disponible aux touristes. Les migrants sont retranchés dans un espace assez hermétiquement clos. Les Lampedusiens sont censés ne pas les voir, mais ils ne pensent qu'à cela. Ils se représentent volontiers comme les hôtes de la porte de l'Europe, mais ils se plaignent aussi d'être des citoyens déclassés que l'Europe, justement, et l'Italie d'abord, ont abandonnés à leurs difficultés.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Éric Valmire, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Je vais faire appel dans vos états de service aux années que vous avez passées comme correspondant en Italie. Alors vous êtes allé à Lampedusa beaucoup de fois et vous étiez toujours agacé de devoir partir à grandes enjambées pour ne pas rater l'avion sur le petit aéroport de Lille.
Oui, pas tout de suite, mais c'est vrai qu'en y allant plusieurs fois et surtout en prenant le temps de rester plusieurs jours, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a un naufrage important, il y a la cohorte médiatique, et pas seulement médiatique. Il y a d'abord le syndrome journaliste qui vient sur un naufrage, qui vient pour interroger une ONG, le maire, si on peut un médecin, et si on peut encore mieux un migrant, et repartir par l'avion du soir, sans essayer finalement de comprendre ce qui se joue sur cette île et ce qui se joue avec les habitants.
D'où le livre, sous forme romancée, où vous mettez dans la peau d'un jeune habitant de Lampedusa qui fait de la radio néanmoins, et même parfois de la télévision que vous sortez chez Lafon, et qui s'appelle « Pêcheur d'hommes ». C'est une expression que j'avais à dessein reprise dans l'exergue de cette émission. Alors, un petit peu de géographie, on est à combien de kilomètres de Tripoli, à combien de kilomètres de la Sicile, à combien de kilomètres de Malte?
Vous allez me poser une colle, mais on est beaucoup plus près des côtes tunisiennes que des côtes siciliennes, c'est-à-dire qu'on est même au sud de Tunis. On est entre le large de Tunis et le large d'Hammamet, ce qui explique pourquoi, évidemment, les Tunisiens vont vers Lampedusa et que c'est une destination choisie. Et la baie de Zouara, près de Tripoli, est également beaucoup plus proche que ne l'est le sud de la Sicile.
L'histoire de cette île, qui est un avant-poste de l'Europe, c'est le moins qu'on puisse dire, est assez confuse. On ne la connaît souvent que par fragments, comme si chacun avait son récit, sa généalogie propre. Un personnage épisodique de votre livre, c'est Don Mimmo Zambilla que voici, tentant de raconter l'histoire confuse de Lampedusa, qui ne s'est pas appelée Lampedusa, bien évidemment, aux origines.
L'île a toujours été un lieu de passage pour les populations africaines. Et elle a été un avant-poste de la christianisation face au monde dit musulman.
L'isola stessa ha avuto periodi in cui è attestata dai geografi arabi la presenza di piccole comunità.
Des géographes arabes ont établi la présence sur l'île de petites communautés musulmanes qui se consacraient à l'agriculture et à la pêche.
Una particolarità è che in certi periodi storici.
À certaines périodes historiques, il a même existé simultanément un double culte. Je parle d'une époque qui va de 1200 à 1600.
L'isola.
Jusqu'en 1843, l'île était privée. Elle n'appartenait à aucune entité politique. Elle était la propriété de la famille Tomasi di Lampedusa, l'auteur du Guépard, qui avait reçu l'île en dot à l'occasion d'un mariage. Mais la famille n'y mit jamais les pieds, et à cause de la situation si reculée et difficilement défendable de l'île, elle chercha toujours à la louer ou à la vendre, de sorte que les gens qui vivent sur cette île savent l'immense difficulté, et vous l'avez vous-même vécu, qu'il y a pour arriver et repartir.
C'est un documentaire de France Culture, Élise Gruau. Vous pensez bien que Franck Olivard, Eric Valmire, qui a préparé cette émission, s'est fait un malin plaisir de ne pas faire appel à vos documentaires d'interception. Alors, dans Mimo, il dit ce qu'il peut, mais vous racontez qu'il y a un personnage sur l'île qui s'est mis en tête d'archiver le passé.
Il s'appelle Antonino Taranto et sans lui, l'histoire de Lampedusa, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'apparaîtrait pas à nos yeux parce qu'il s'est mis en tête de tracer l'histoire linéaire simplement parce que le prêtre qui était bien avant Don Mimo, qui était une figure de l'île, lui a dit que l'île n'avait pas d'histoire. Et comment une île au cœur de la Méditerranée pourrait ne pas avoir d'histoire? Comment après la chute de l'Empire romain, quand on sait les batailles navales qui ont secoué la zone, comment ne pas avoir une histoire propre et spécifique? Alors, en Naples, et comme évidemment ça dépendait de Naples, l'île dépendait du royaume de Naples, il s'est mis en tête d'aller chercher des archives et il a fini par les trouver. Et ensuite, en s'installant à Lampedusa, parce qu'à l'origine il est napolitain, et puis là, il venait en vacances quand il était enfant avec ses parents, il est tombé en amour de cette île, et en allant ensuite à Lampedusa, il a fait appel aux habitants de trouver dans leurs archives personnelles, il est allé en Sicile, enfin, il a fait un travail incroyable sur plusieurs années, et aujourd'hui, on lui doit donc de connaître effectivement l'histoire de Lampedusa à partir de récits d'explorateurs maritimes, à travers des récits de Diderot, Denis Diderot qui est passé par Lampedusa. Et donc à travers une certaine somme de documentation qu'il a réussi à trouver et à ordonner.
Parce que quand vous me parlez d'histoire linéaire, vous me faites rire parce que c'est une île refuge, un port naturel, ouais. C'est au milieu de toutes les batailles navales, les corsaires barbaresques sont aux environs, c'est plutôt une histoire en zigzag et c'est une possession de Naples depuis le milieu du 19e siècle.
Oui, quand je dis histoire linéaire, je voulais parler en fait de chronologie. C'est-à-dire que dans l'esprit des uns et des autres, l'histoire de Lampedusa, elle commence à la fin des années 60. Parce qu'avant la fin des années 60, avant 1968, à Lampedusa, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas d'aéroport et il n'y avait pas de télévision.
Et donc, puis, il y avait 600 personnes. Après les bombardements anglo-américains, l'expédition de Sicile, la base britannique pendant un moment à la fin de la guerre, se sont installés aussi, ça, ils sont dotés en communication des lieux militaires.
Oui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en effet, quand les Anglo-Américains ont repris l'île aux Italiens, eh bien, à l'époque, l'île était d'ailleurs une sorte d'assignation à résidence pour prisonniers politiques de Mussolini. Donc, l'île a été libérée et ont été installées des bases américaines, anglaises et qui se sont développées par le temps. Et aujourd'hui, les habitants de Lampedusa dénoncent cette occupation. C'est pas seulement que des militaires américains. Il y a une base américaine, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les forces carabiniers, la marine nationale italienne est là, les forces de la marine, je l'ai dit. Il y a en tout 5 corps d'armes, plus les Américains, sur une île de 20 km².
Vous voulez dire que les migrants dissimulent aussi d'autres activités ?
C'est ce que disent les habitants. Ils pensent que l'alibi de développer des budgets défense pour patrouiller en mer et pour surveiller la mer ou entreprendre des opérations de sauvetage cache en fait un alibi bien moins avouable, qui serait effectivement des budgets pour la géostratégie, la géopolitique militaire d'une zone évidemment entre sud et nord qui est très très importante à localiser, parce qu'il y a une base radar espion qui existe, qui est sur l'île, ça on peut pas nier le fait.
Ressources naturelles, un peu de vigne, quelques cultures à partir du moment où les colons napolitains s'installent, la pêche, votre héros dans Pêcheur d'hommes pêche les éponges, ou du moins c'est le lot de sa famille, et puis les fonds sont raclés, on se transmet une autre vocation, celle de l'organisation du tourisme avec les premiers immigrés. C'est quoi ces ruines familles là dont vous parlez? Ce sont des femmes qui viennent faire le service depuis l'Ukraine,
l'Europe
de l'Est.
Les Rovina Familia, oui, ça c'est. Mais c'est pas seulement qu'à Lampedusa, c'est aussi en Sicile et dans le sud de l'Italie. Effectivement, ces femmes ukrainiennes ou venues de l'Est et qui font souvent des emplois de ménage, d'aide à domicile, sont surnommées par les femmes italiennes des ruines familles, parce que elles sont souvent jolies, dotées de formes qui attirent les hommes et donc qui cassent et ruinent la famille.
Les pêcheurs deviennent pêcheurs d'hommes quand, à partir du début des années 1990, ils prennent dans leur filet des cadavres. Le docteur Piero Bartolo, que voici maintenant, il a témoigné beaucoup plus tard dans le grand film de Gianfranco Rossi, Fuoco Amare. Vous parlez aussi de lui longuement.
Il doit être d'ogni uomo, che sia un uomo.
Tout homme a le devoir, s'il est un être humain, de secourir ses personnes. Comment peut-on s'habituer à voir des enfants morts, des femmes enceintes, des femmes qui ont accouché sur des canaux en perdition, l'enfant encore attaché par le cordon ombilical, et tu dois les mettre dans les sacs, les cercueils, tu dois même faire des prélèvements. Tu dois couper un doigt ou prélever une côte, couper une oreille à un enfant. Même après la mort, cet autre outrage. Mais c'est utile. Et donc je le fais. Tout ça te laisse avec une colère, un vide dans l'estomac, un trou. Tu penses. Tu rêves d'eux. Je fais des cauchemars où je revis, souvent. Souvent.
D'où l'idée des autorités, 1998, de séparer les Lampedusiens et les migrants qui vont être de plus en plus nombreux. On les met dans un centre, disons, d'accueil ou de rétention.
On est un camp qui est installé au bout des pistes de l'aéroport. Il faut, Jean, quand même bien savoir que l'île, c'est 20 km². Si vous prenez un vélo, vous allez de la pointe nord à la pointe sud, vous le faites en 19-20 minutes. Vous voyez.
Et 5-6 000 habitants.
Et 5-6 000 habitants. Donc c'est minuscule. Donc le centre, on ne va pas dire que l'île est séparée en deux. Le centre est simplement construit au bout des pistes de l'aéroport. Pourquoi ? Parce que jusqu'auparavant, jusqu'avant 98, c'est-à-dire que les premiers Tunisiens arrivent en 1992, ils viennent en barque. Alors ils n'échouent pas. Hein, ils arrivent au port. Ils se sont débrouillés par leurs propres moyens. Ils vont frapper à la porte des carabiniers. Ils vont donc vivre dans la caserne pendant un mois. Et c'est tous les habitants de l'île qui vont se cotiser pour qu'ils puissent repartir au bout d'un mois et poursuivre leur périple vers la Sicile et plus tard vers la terre ferme. Et les Tunisiens, en partant, leur disent : vous allez voir, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Les habitants de Lampedusa ne le croient pas, et pourtant si, ce sont les premiers morts. C'est là où effectivement on a les Tunisiens qui sont dans les filets des pêcheurs, que les pêcheurs ramènent, pas que les Tunisiens d'ailleurs, on va voir des Africains, que les pêcheurs ramènent au port morts ou en train de voir des corps agonisés sur le pont, avec des pêcheurs qui sont frappés psychologiquement, durement, des pêcheurs qui ensuite sont embêtés par la bureaucratie au retour et qui donc balancent les cadavres par-dessus bord, parce qu'ils ne veulent pas être embêtés par l'administration. Il y a quelque chose qui devient intenable pour les habitants et en 98, enfin, les autorités prennent la mesure du problème et ouvrent ce camp. Et c'est le début du camp. Et pendant une longue période, on va voir les habitants déconnectés, en effet, des immigrés qui étaient récupérés, des naufragés, parce que ils sont récupérés au port par les ONG, ils sont examinés par les médecins et aussitôt conduits en bus au centre où ils sont enfermés et où ils ne devront plus sortir.
Les années 2000 voient l'afflux grandir. Quelques 9 000, 10 000 migrants, j'emploie le mot, c'est pas nécessairement celui qui était dominant dans les années 2000, par an. Et en 2008, vous racontez la scène de l'inauguration à une extrémité de l'île d'une statue de Mimmo Palladino intitulée « La porte de l'Europe », à l'occasion de laquelle on a entendu cette chanson bien connue.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Lampedusa, selon Éric Valmire, qui publie chez Lafon, Pêcheur d'hommes. Ces années sont celles de la professionnalisation des passeurs, professionnalisation du centre de rétention qui est confié à une confrérie catholique. Mais l'État verse une somme chaque jour par personne. Il y a des salariés en face, et puis aux côtés des salariés, il y a toutes les organisations humanitaires, policières. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde, et tout ça est très bien régi.
Oui, c'est très bien régi, encore que, encore une fois, si on se place du côté des habitants, on ne sait pas vraiment qui régit quoi. Parce que qu'est-ce qu'il advient de ces migrants qui sont dans le centre d'accueil? Leur sort fluctue finalement d'une période à une autre. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne va pas les voir, puis finalement, on va les voir se promener en ville, puis un autre moment, on va les voir finalement être totalement libres. Tout dépend effectivement des flux et des reflux qu'ils peuvent avoir. Et encore une fois, il y a surtout un message politique qui est fait autour de la cause des migrants. C'est-à-dire que la seule fois où on a noté une amélioration véritablement, quand je dis une amélioration notable, c'est qu'on n'a plus vu de migrants, on n'a plus eu de naufragés en mer. C'est quand Enrico Letta avait développé le programme Mare Nostrum pendant un an, mais qui a coûté trop cher pour l'Italie pour qu'il puisse perdurer dans le temps.
Alors, puisqu'il n'y a pas d'histoire linéaire, mais une histoire pendulaire, je vous propose qu'on essaye d'identifier quelques moments. Ozo, en 2009, il y a maintenant deux centres de rétention, dont l'un est destiné simplement au tri et à l'expulsion. Et puis, la population de ces centres augmente, ça engorge. À ce moment-là, il y a des difficultés au gouvernement, au ministère de l'Éducation réduit les crédits des écoles et les Lampédousiens défilent sur ce thème-là. Sauf que fin janvier 2009, ils sont rejoints par un certain nombre de migrants qui sont parvenus à s'échapper, des Érythréens notamment.
Dans le village silencieux et déserté à l'heure de la sieste, une centaine d'hommes africains passent dans les rues devant notre hôtel. Ils se dirigent vers l'église, nous partons à leur rencontre.
Nous venons d'Érythrée.
Pourquoi êtes-vous venu ici à l'église de Lampedusa?
Premièrement, nous voulons prier Dieu. Deuxièmement, nous voulons que les gens en Italie sachent que nous avons des problèmes. Nos parents, nos familles, nos sœurs, nos frères, nos femmes, nos maris vivent tous en dehors d'Italie. Le règlement de l'UNHCR qui veut que nous donnions nos empreintes en Italie nous inquiète. Car nous savons, par les récits de nos familles, que tous ceux qui ont laissé leurs empreintes en Italie ont été obligés de rester vivre ici. Et n'ont pas pu aller dans les autres pays européens. Donc nous avons peur de cela.
C'était possible de sortir du centre pour venir à l'église?
Non, c'est impossible. C'est comme une prison. Personne n'a le droit de sortir. Mais nous avons sauté par-dessus les barrières. C'est très difficile de sortir du camp. C'est la première fois que nous sortons du camp. Nous n'avons eu aucun problème avec les gens de Lampedusa. Et ils ne font pas attention à nous. Ce sont des gens souriants.
Ce sont des gens souriants, dit toujours le documentaire d'Élise Ruault. Mais comment se font les contacts? Il faut se mettre à proximité du camp, crier, parler au-dessus des barbelés.
Alors à l'époque, même pas, parce que on les voit même pas, parce que c'est encore une fois, c'est au bout des pistes de l'aéroport, donc faut passer par l'aéroport, et aujourd'hui encore moins, puisque c'est dans une base, une ancienne base de l'OTAN, carrément en plein centre de l'île, et avec des checkpoints qui sont installés 800 mètres avant le centre. Donc on ne les voit pas, les contacts ne sont pas directs, les contacts sont directs seulement quand il y a drame, c'est-à-dire quand les autorités sont dépassées et qu'il y a un naufrage juste en face d'une plage ou que les habitants doivent jouer le rôle de secouristes. Mais sinon, en temps ordinaire, et surtout aujourd'hui, maintenant, le contact n'existe quasiment plus. Ce qui était intéressant dans cette journée de 2009 qui était complètement folle, c'est que les gens de Lampedusa avaient manifesté, comme vous l'avez dit, pour l'école, mais pas seulement, pour le manque d'infrastructures. Il n'y a pas d'hôpital à Lampedusa. Ça, c'est un gros problème. Il n'y a pas d'hôpital. Il y a un point de premier secours, mais c'est tout. Donc, par exemple, les femmes ne peuvent pas accoucher à Lampedusa. Elles sont obligées de partir deux mois avant, puisqu'elles ne peuvent pas prendre l'avion, pour aller accoucher en Italie. Et les gens de Lampedusa ont l'impression que c'est tout pour les migrants et rien pour eux. Donc ça, c'est un problème. Donc, ils avaient manifesté pour ça et les policiers les avaient chargés. Donc, ils trouvaient que c'était un peu fort de café, d'abord, de subir tout ce qu'ils devaient subir au quotidien et en plus d'être chargés physiquement par la police alors qu'ils manifestaient pacifiquement pour dénoncer le manque d'infrastructures. Et dans le même temps, les migrants ont réussi à faire tomber les barrières et à provoquer une manifestation et se mêler aux gens de Lampedusa. Il y a eu une confusion terrible ce jour-là et les habitants de Lampedusa ont l'impression de s'être fait voler leur manifestation parce que, d'un seul coup, pour les journalistes qui étaient sur place, voir tous les migrants comme ça, dans la rue, qu'on pouvait interroger, c'était beaucoup plus intéressant que les habitants de Lampedusa. Et cette date-là est restée, et bravo d'avoir choisi cet extrait, parce que cette date-là, qui est méconnue, est restée importante dans l'histoire de Lampedusa.
Et sur le dos de l'Europe, beaucoup de reproches vont s'accumulant. Les autorités de Lampedusa disent « l'Italie nous abandonne », les habitants de Lampedusa disent « l'Europe ne fait pas non plus ce qu'il faut ». Un autre moment très chaud, puisqu'on les inventorie, c'est 2011. Nous avons trouvé ceci sur le site figaro.fr. Vous allez voir que les manifestations hostiles aux migrants, les propos qui s'y tiennent sont traduits avec vigueur.
L'île de Lampedusa a perdu sa tranquillité. Nous avons peur. Et que fait l'Europe? L'Europe, la seule chose qui l'intéresse est la quantité de beurre de cacao qu'il faut mettre dans le chocolat. Ça, oui, c'est important. L'Europe, elle décide de nous mettre une amende si on produit 200 litres de lait en plus. Ils les laissent libres, sans aucun contrôle. Ma petite fille, on est obligé de l'enfermer à la maison. Et j'espère que nous ne toucherons jamais à une fille de Lampedusa, car je le répète, d'ici à l'océan Indien, tout deviendra rouge.
Et c'est cette année 2011 qu'avait choisi Marine Le Pen pour venir à Lampedusa. C'est minoritaire néanmoins ce type de réaction.
Très, et c'était lié à l'actualité, les printemps arabes, avec une déferlante de Tunisiens et de Libyens qui étaient arrivés et qui, évidemment, occupaient mais toute l'île. C'est-à-dire qu'il y avait des colonnes pour aller dans les bars, des gens qui frappaient aux portes des maisons pour pouvoir aller aux toilettes, pour avoir un bout de pain. Enfin, les autorités étaient totalement dépassées. Quand les autorités ont repris la main, c'était pour les expulser. Or, les Tunisiens et les Libyens, enfin ceux qui étaient là, dans un mouvement de peur, ont évidemment répondu par la violence parce qu'ils ne voulaient pas être expulsés. Ils ne voulaient pas avoir fait cette traversée pour rien et retourner dans leur pays qui était synonyme de chaos.
Et on prend une troisième date clé. Vous étiez encore là-bas. Vous comptez d'ailleurs à la fin de Pêcheurs d'hommes ce moment. C'est 2013. Je ne sais s'il faut commencer par la visite du pape, son premier grand voyage à l'extérieur du Vatican après son élection. C'est en juillet 2013 ou par octobre 2013. Allez, on va respecter l'ordre chronologique. Donc, le pape, accueilli par la mère, qui était alors une écologiste de Lampedusa.
Immigrés morts dans la mer. Et ces bateaux, au lieu d'être un chemin d'espérance, ont été un chemin de mort. C'est comme ça. C'est le titre dans la presse. Lorsqu'il y a quelques semaines, j'ai appris cette nouvelle que malheureusement, qui s'est répétée plusieurs fois. Et alors, j'ai ressenti le besoin de venir ici aujourd'hui prier. Tout d'abord, je voudrais vous dire un mot pour remercier et pour vous encourager, vous, les habitants de Lampedusa et de Linos. Vous êtes une petite réalité, mais vous offrez un exemple de solidarité. Merci.
C'est une date très importante parce que le pape est la première personne, et nous sommes en 2013, la première personne dans l'histoire de Lampedusa à venir dire aux Lampedusa bravo et merci pour tout ce que vous faites. Jusqu'à présent, ils sont à la fois les témoins passifs et les protagonistes directs des tragédies qui se nouent en mer. Et c'est là tout un paradoxe. En général, les politiques qui viennent là sont là pour se servir d'une scène en quelque sorte. On arrive le matin comme les journalistes, on fait une déclaration et on s'en va le soir. Pour qui veut fustiger l'Europe, pour qui veut instrumentaliser le drame des migrants, Lampedusa est devenue une scène de théâtre et un plateau de télévision, même pour le dénommé Silvio Berlusconi, qui un jour est arrivé et a dit « Je vous promets que dans 60 heures, tout le problème des migrants sera résolu. Et pour vous le prouver, j'achète une maison à Lampedusa. » Il a acheté une maison à Lampedusa, il n'est jamais revenu, cette maison est toujours là, volet fermé. Et ça fait maintenant 10 ans que ça dure. Donc c'est pour dire à quel point ce qu'avait dit le pape était très important pour les gens de Lampedusa qui se sentaient pris en considération pour ce qu'ils faisaient, pour ce qu'ils pensaient. Parce qu'ils se sentent réellement abandonnés. Pensez donc que Lampedusa ne figure même pas sur la carte d'Italie dans les manuels scolaires. Donc, après la visite du pape, ils sont tous régénérés. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si finalement on pouvait croire en des jours meilleurs, à une économie relancée, comme si finalement cette considération allait donner une énergie nouvelle et un booster en quelque sorte. Et puis, 6 mois après la plus grosse tragédie que l'île n'a jamais connue, c'est-à-dire le 3 octobre 2013, ce navire qui coule au large de la plage des Conili, c'est-à-dire à 800 mètres de l'île. Et comment une telle tragédie peut arriver avec autant de navires de surveillance autour? Personne ne saura répondre à cette question, mais encore une fois...
366 morts.
366 morts, et encore une fois, les pêcheurs, les gens avec les barques, qui vont essayer de les sauver, qui n'y arrivent pas, et des corps partout sur le port.
Alors, votre conclusion est légèrement mélancolique. Ils viennent, ils parlent, leurs bras moulinent, et ils s'en vont. Néanmoins, le statut de la parole... Vous y croyez? Et c'est ça qui fait tenir votre héros qui choisit de rester, après avoir fait des allers-retours avec la péninsule.
Dans la vie, il faut savoir précisément à quel endroit on doit être pour vivre en harmonie avec ce que l'on veut et ses convictions. Je crois que ça, c'est un autre message du livre. Pas seulement à cause de l'insularité, mais simplement ça, être là où on doit être.
Merci à vous, Éric Valmire. Pêcheur d'hommes, c'est aux éditions Robert Laffont. Je l'ai dit, cette émission était préparée par Franck Olivard. Vous avez reconnu à la réalisation, Éric, une vieille complice. Audrey Ripouille, une jeune complice. Et Ronan Mahé à la technique. Et puis un vieux de la vieille, Mathieu Vidard, la tête au carré.
Non, Jean Lebrun.
Mais c'est affectueux.
Dans un instant, on va parler des effets spéciaux à l'occasion d'une expo en ce moment à la Cité des Sciences.